Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro, avec vous pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous propose une émission qui est destinée à la famille, à leurs besoins, à leurs défis, à leurs réalités. En deuxième partie d'émission, l'Alliance de l'Institut de la statistique du Québec, l'organisme Avenir d'enfants et l'Université du Québec à Trois-Rivières dévoilaient la semaine dernière les résultats d'une vaste enquête, une enquête sans précédent nommée « Perspectives parents » où on a voulu savoir comment allaient les parents, ceux plus précisément d'enfants de 0 à 5 ans, et également, suite à ces résultats, arriver à une espèce de consensus, à savoir, en tant que société, comment on peut les aider, comment on peut soutenir ces familles, ces parents. Julie Dosteller, elle est directrice générale d'Avenir d'enfants et elle nous en jasera un peu plus précisément, plus profondément de cette expérience de la parentalité, oui, au Québec, en deuxième partie d'émission. Aussi, si l'annonce d'une grossesse est souvent associée à beaucoup d'intensité, hein, et puis ça peut se traduire de plein de façons là, chez les futurs parents, on peut ressentir de l'excitation, de la joie, mais également des craintes, de l'angoisse, notamment parce que ça arrive hein, qu'une grossesse n'ait pas été nécessairement prévue. Imaginez lorsque l'on apprend que l'on va devenir parent de jumeaux. Là, l'intensité, elle est doublement présente. C'est souvent associé à une grande surprise et le sentiment, j'imagine, ça m'est jamais arrivé, mais le sentiment très fort, très net, que l'on va vivre une aventure unique, une aventure familiale hors du commun. J'ai personnellement beaucoup de jumeaux dans mon entourage, des amis proches, des membres de ma famille, et j'ai toujours été fascinée par cette relation qui semble si particulière, cette relation qu'ils entretiennent, ces jumeaux. Les éditions du CHU Sainte-Justine rééditent récemment ce livre « Jumeaux, mission possible » et c'est Gisèle Séguin qui en est l'auteur. On lui parle à l'instant. Bonjour Gisèle.
Bonjour Madame Paquette.
Gisèle Séguin, on vous joint du côté de l'Estrie, où précisément?
À Sherbrooke.
À Sherbrooke. Il fait soleil à Sherbrooke autant qu'à Montréal?
Il fait merveilleux.
On en profite. Oui. Gisèle Séguin, donc je le disais, auteur de ce livre « Jumeaux, mission possible » publié au CHU Sainte-Justine, mais également maman de jumeaux identiques. Vos garçons sont grands maintenant, mais vous êtes quand même bien placée pour nous parler de cet impact de l'arrivée de jumeaux dans une vie. Comment on se prépare à ça?
C'est un peu difficile, en fait, de se préparer parce que souvent, on n'a pas beaucoup de repères. Les situations avec des singletons, donc des enfants qui sont arrivés d'une naissance seule, c'est pas toujours pareil. À coup que l'effet de surprise, le choc gémellaire de l'annonce est fait, ben on se prépare comme on peut, dans le fond, parce que il faut prendre une journée à la fois, peut-être laisser passer quelques temps pour digérer la nouvelle avant d'en parler.
Oui. Il y a plusieurs façons aussi de se préparer. Là, il y a l'aspect un petit peu plus psychologique, c'est de ça dont on parle, mais il y a un aspect aussi qui est financier, organisationnel, de se dire, OK, là, c'est pas juste les coûts associés à un enfant, mais à deux que je devrais assumer.
Oui, tout à fait. Pour les finances, c'est sûr que ça rajoute un stress, on s'entend, parce que souvent, les mamans sont obligées d'arrêter de travailler un petit peu plus tôt.
Ouais.
Et souvent, leur retour au travail va être un peu plus tard,
ouais,
parce qu'on a quand même deux enfants à faire garder, c'est pas si simple. Et puis, bon, quand on parle de dépenses, bien sûr qu'on peut tout acheter en double, mais on n'est pas obligé, hein?
Ouais.
Donc, ce que moi, je suggère toujours, c'est d'en parler autour de soi. Il y a des forums Internet, c'est magnifique. Puis voir un peu ce qu'on a vraiment besoin en double. Il y a des choses que oui, mais pas tout et pas toutes tout de suite.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, de laisser aller un peu les choses, parce que l'impact d'une arrivée de malade dans une famille, écoute, il arrive un nouveau bébé, c'est déjà tout un bouleversement, là. Mais quand il y en arrive deux, ben c'est un tremblement de terre.
Oui, surtout lorsque ce n'était pas prévu, et c'est rare que c'est prévu de se dire, OK, là, je vais mettre au monde deux enfants, je le sais, ouais. J'étais préparée à ça. C'est assez rare. Il y a aussi la fratrie auquel il faut penser vous-même. Vous étiez déjà maman lorsque vos jumeaux sont arrivés. Comment on annonce ça à nos plus vieux enfants?
Bien, ça aussi, ça dépend peut-être un peu de l'âge de l'aîné ou des aînés qu'on a. Mais dans le fond, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur dire « Maman et papa vont être bien, bien occupés.
» Ouais.
Et puis, en fait, les enfants ne comprendront pas. Puis d'ailleurs, les parents non plus ne savent pas tant que les deux sont pas arrivés. Fait que on peut essayer de s'y préparer un peu, mais c'est jamais tout à fait ce qu'on imagine. Hein.
Oui. L'arrivée de jumeaux pour un papa, pour une maman, futur parent, c'est associé à quel genre de crainte, à quel genre d'angoisse?
Je dirais, bon, premièrement, quand je dis d'attendre un peu avant d'en parler aux gens, parce que les gens, quand on en parle, c'est des réactions plus souvent négatives que positives.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas faire? Une chance à toi, pas à moi, que ça arrive.
C'est tellement de travail.
Alors, la crainte, c'est elle-là, la plus grande crainte, c'est la crainte de ne pas y arriver. Et en passant, ça va être la réalité bien souvent. Et ce n'est pas facile de gérer deux bébés nouveau-nés qu'on ne connaît pas encore, qui sont très différents. Alors ça, c'est la première crainte, c'est sûr. C'est comment on fait? Ben, on ne sait pas. On fait de notre mieux, hein.
Oui. Je pense également au deuil que l'on peut faire. Je pense à un exemple très précis d'une amie qui a eu des jumelles. Elles ont un an et demi à peu près, les petites. Et cette amie, lorsqu'elle a appris sa grossesse, elle était très contente et elle se préparait à accoucher avec une sage-femme dans un centre de naissance. Elle avait fait toutes les démarches nécessaires. C'était son objectif d'accoucher de cette façon-là. Évidemment, lorsque l'annonce du fait qu'elle attendait des deux petits, des deux petites filles a été faite, ben, elle a dû renoncer à ce désir-là parce que ce n'était pas possible. Donc, il y a aussi des deuils qui sont associés à cette annonce-là. C'est possible, j'imagine, de les surmonter?
C'est possible de les surmonter. De toute façon, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle dans la vie. Ça, c'en est une. Ça, c'est la première chose. Et cette attitude-là va nous servir souvent avec nos jumeaux, c'est bien sûr. Oui, au Québec, les sages-femmes, c'est interdit le suivi de grossesse parce que c'est des grossesses à risque, on s'entend. La grossesse, donc, risque d'être moins facile. L'exemple parfait, là, de la maman épanouie. Ben, enceinte de jumeaux rendue à 8 mois ou 7 mois, le plaisir est un peu diminué, là. Ça prendrait du Photoshop pour faire la madame resplendissante parfois, là. C'est pas toujours le cas. Moi, j'ai eu une superbe grossesse, là. Je dis pas que c'est impossible, mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas le cas. Donc, la grossesse est moins facile. L'accouchement, c'est beaucoup plus imprévisible. C'est autant au niveau de la date que du comment ça va se passer.
Ouais.
Beaucoup plus de césariennes qui étaient non prévues. Plus de chances d'avoir une césarienne prévue aussi.
Ouais.
L'allaitement, ça se peut qu'il y en ait qui n'osent pas, alors que c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème, ça aussi. Mais, tu sais, le petit rêve là, du retour à la maison avec le petit bébé puis la belle famille en toute douce, puis c'est comme dans le film. Non, oublie ça.
Oui.
Ça sera pas ça.
C'est important de rappeler, Gisèle Séguin, que vous êtes l'auteur de ce livre-là qui est très bien fait, là, 380 pages et quelques, là. C'est très bien construit, c'est costaud. Vous êtes maman de jumeaux identiques, mais vous avez aussi travaillé, œuvré auprès de familles, de parents, d'enfants jumeaux dans votre région. Donc, des parents de jumeaux, vous en avez côtoyé. Vous avez certainement dû entendre toutes les histoires. Je le disais tout à l'heure, maintenant, vos garçons sont grands. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, il y a plus d'aide, plus de soutien pour les parents d'enfants jumeaux qu'à votre époque?
C'est très différent, en fait. Dans mon temps, parce que je parle du Moyen-Âge presque, non? Dans mon temps, il y avait beaucoup d'associations de parents jumeaux, dont Sherbrooke, et c'est mon mari et moi, on s'est ramassés à la tête de cet organisme merveilleux. Et maintenant, il ne reste qu'à Montréal et à Québec qu'il y a des associations qui sont toujours aussi intéressantes et essentielles. Par contre, dans les autres, là, il n'y en a plus. Par contre, il y a un réseau d'informations beaucoup plus facile à trouver aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Avec le web, entre autres. Là.
Avec le web, il y a les pages Facebook, les forums. On souffre beaucoup moins d'isolement parce qu'on s'entend qu'on est un petit peu prisonnier avec nos bébés pour un certain temps. Donc ça, au niveau de réseau d'informations, c'est beaucoup plus facile. Par contre, il y a aussi l'aide au niveau du réseau des bras. Là. Tu sais, ça donne pas des bras, puis ça donne pas un petit repas congelé là, dans le congélateur, ça, d'avoir des réseaux sociaux par Internet.
Oui, et justement, je vais vers cette question, Gisèle, c'est-à-dire le réseau de quoi ont besoin de jeunes parents de bébés jumeaux? Au départ, la première année, par exemple?
Bon, la première année, tu sais, le tsunami de tantôt, là, ben, c'est ça. C'est après le tremblement de terre, c'est le tsunami. parce qu'on a besoin beaucoup de support moral, entre autres, parce que c'est difficile. Les difficultés, là, écoute, c'est pas compliqué, c'est de la fatigue. Mm-hmm. Jusqu'à l'épuisement, c'est des nuits, tu sais, quand il y en a un qui dort, l'autre dort pas nécessairement, là. Fait que les journées, au bout d'une couple de semaines, on est un peu zombie, là. On distingue plus trop le jour et la nuit. Alors, c'est la fatigue qui est un gros problème. Alors, toute l'aide qu'on peut avoir, qui peut venir des fois faire un petit tour puis que maman puisse se coucher une demi-heure ou aller prendre du soleil un peu s'il y en a, faire l'épicerie, prendre sa douche.
Oui.
Tu sais, c'est des choses, ça, on a besoin d'aide. Il y a des gens qui s'organisent très bien tout seuls, mais la plupart ont besoin, à un moment donné, d'aide. Et il y a beaucoup de gens qui disent, « Ah, ben je vais aller t'aider. » Tu sais, quand tu t'annonces, tu es enceinte de jumeaux, tu as plein de monde qui s'offre. Mais c'est drôle, quand les jumeaux sont arrivés quelques mois plus tard, on dirait qu'ils nous oublient.
Ouais.
Et on oublie qu'on est encore mère de jumeaux passé un mois et demi, deux mois.
Ouais. Il faut demander cette aide-là si elle
il
ne vient pas.
Il faut le demander parce que les gens oublient qu'au début, on a de l'aide des fois, là, tu sais, la maman, le temps des relevailles, puis tout ça, fait que, tu sais, c'est nouveau, c'est cute, c'est cool, il y a plein de monde qui vient bien aider, mais au bout de 4 mois, là, c'est moins nouveau, là, mais ça, c'est encore dans le jus, là.
Ouais, ouais.
Fait qu'il faut le demander, les gens, ils veulent bien aider, mais il faut pas attendre qu'ils offrent, parce qu'à un moment donné, eux autres, ils oublient.
Oui. Je veux revenir à ce que je mentionnais en introduction, à savoir ma fascination envers la relation qu'entretiennent des jumeaux. Et j'imagine aussi le parent, la relation que le parent entretient avec ses jumeaux. Est-ce qu'il faut les séparer assez tôt, je pense à l'école notamment, mais avant, tenter de les distinguer par les vêtements, ou plutôt, non, on les laisse assez associés?
Il y a encore là, comme dans à peu près n'importe quoi, deux écoles de pensée. Moi, mon école de pensée, elle est claire dans ma tête. Ces enfants-là, c'est deux personnes individuelles qui sont arrivées par un miracle de la nature au même moment. Et là, quand on parle de différencier, on s'entend que c'est plus problématique chez les jumeaux identiques.
Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Parce que, curieusement, il y a quand même beaucoup de gens qui entretiennent cette espèce de gémellité-là par les... On s'habille pareil, même pour des non-identiques.
Oui,
il y a une fierté, c'est incroyable. C'est tellement beau de voir vieillir des jumeaux puis de voir aller cette relation-là. Mais elle est déjà intense, cette relation-là. Et ça se définit pas par des petites barrettes de la même couleur puis la petite jupe de la même couleur.
Oui.
Donc, oui, moi, je trouve ça, et la plupart des psychologues le disent, c'est important qu'ils soient capables de se tenir debout tout seuls sans la présence de l'autre. Et... je pense que oui, si on les sépare, ils vont prendre leur place et dans le couple. Ça se fait habituellement assez bien.
Mm-hmm.
Et dans la société, parce qu'à un moment donné, dans la vie, non, tu veux pas voir aller des jumeaux qui sont rendus adultes et qui sont pas capables de vivre un sans l'autre. C'est pas sain. Donc, si on leur donne une chance de les différencier, il y a beaucoup de parents qui sont très fiers, tu sais, puis avec raison, là, c'est cute, des petits jumeaux habillés pareils, on s'entend, tout le monde trouve ça joli, là. Mais pour la photo de Noël, une fois par année, pour faire plaisir à la famille, c'est bien cute, mais dans la vie de tous les jours, ça pourrait facilement devenir lourd, et ils sont jumeaux quand même.
Oui, voilà, même s'ils n'ont pas le même habit, la même salopette et tout ça. Est-ce que les jumeaux se développent de la même façon que les autres enfants? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Est-ce que l'éducation doit se faire différemment?
Bien, encore là, ça dépend. Jumeaux identiques, non identiques. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a rien de pareil, on s'entend. Non, ils ne se développeront pas de la même façon que des enfants singletons. Pour certaines choses, ils vont peut-être être plus rapides, style pour apprendre à négocier, à partager la vie en société. Ils sont venus au monde dans une petite société, là.
Oui.
Par contre, pour d'autres affaires, dont le langage, souvent, il va souvent avoir un retard parce que ils ont peut-être moins besoin d'interagir justement avec d'autres mondes parce qu'il y a déjà toujours quelqu'un qui les comprend.
Oui. J'imagine que pour un parent, un papa, une maman et même la fratrie, c'est assez simple de reconnaître la personnalité unique de son frère ou de son enfant ou de sa sœur. Mais après, on a envie que nos enfants, même s'ils sont jumeaux, prennent une place dans la société, à la garderie, à l'école qui leur est propre. On les encourage comment à faire ça?
Ben, en fait, je pense que c'est quelque chose qui se développe dès la toute petite enfance, pour ne pas dire bébé, là, autant que possible là, quand on est capable. Disons que papa va faire l'épicerie, ben s'il peut amener un des deux jumeaux, l'autre est à la maison. C'est des petites séparations dès le début. Ou au début, l'enfant va peut-être être un petit peu choqué parce qu'il aurait voulu sortir lui aussi. Mais tu sais, la prochaine fois, on va échanger, puis c'est pas grave. Mais que l'enfant prenne conscience qu'il est important en lui-même, là. Il n'a pas besoin d'être avec le jumeau pour être important.
Ouais.
Alors, si dès le début, on réussit à faire des petites séparations, éventuellement, les plus grandes séparations sont plus faciles. Rentrer à l'école dans des classes différentes, c'est pas supposé être un drame.
Mm-hmm.
Alors que pour certains parents et pour certains enfants, ça pourrait l'être parce qu'ils n'ont jamais osé les séparer. Et c'est dans le fond, c'est les enfants qui payent pour ça après.
Ouais. Hein, que... Gisèle, je peux pas m'empêcher de... C'était pas prévu là, dans mon travail de recherche, mais je peux pas m'empêcher de vous demander, mythe ou réalité, lorsqu'un jumeau se blesse, l'autre va avoir mal au même endroit?
C'est oui et non, mythe et réalité, okay. Parce que je l'ai vécu chez nous et j'ai trouvé ça, j'y croyais plus ou moins, je vois très bien le lien entre mes garçons, c'est tellement beau, j'en suis jalouse,
ouais.
Mais quand ils étaient à l'université, mon fils a appelé pour me parler, j'ai mal aux dents, puis qu'est-ce que je peux faire, j'ai pris une aspirine, puis je sais pas quoi faire, puis je suis partie à rire malgré moi. Et j'ai dit, le rendez-vous, faire enlever les dents de sagesse à ton frère, là, il a été devancé, c'est là que ça se passe.
Ah oui!
Et ils ont vraiment dit, OK, puis c'est réglé. Fait que oui, je l'ai vécu à quelques reprises, c'est pas la seule. J'en parle d'ailleurs dans la fin du livre, là, comment il reste jumeau pour toujours. Là,
oui.
Et non, j'y croyais pas bien, mais j'ai trouvé ça hallucinant de dire qu'il m'appelle à ce point-là parce qu'il a du mal, puis il savait pas. Le rendez-vous avait été devancé.
Ouais. Donc, c'est pas prouvé scientifiquement, mais dans le vécu, on peut quand même voir des événements du genre.
C'est vraiment bizarre.
En terminant, Gisèle, il nous reste une minute, mais en rafale, j'aimerais pouvoir vous entendre sur des trucs, des conseils très concrets pour des parents, futurs parents qui nous écoutent et qui s'engagent dans cette aventure rocambolesque qui est être parent de jumeaux.
Bon, première chose que moi je dis quand ils sont tout petits, autant que possible, coordonner si possible les boires des bébés.
Mm-hmm.
C'est un détail, c'est pas toujours facile. Quand on allait, c'est pas toujours, hein, c'est le petit qui décide finalement, là, dans tout temps. Mais si on est capable, ça c'est vraiment aidant. Développer une routine, peu importe laquelle, mais qu'il y en ait une,
ouais.
Pour permettre une certaine prévisibilité, bon, tout ce que tu veux dire, pour que maman puisse avoir une vie un peu peut-être en dehors du fait de s'occuper de ça. Le petit truc d'accepter et accueillir la frustration qui vient avec ça et la culpabilité qui est omniprésente.
Ouais.
Parce qu'on voudrait donc donner de l'attention pour chacun de ces bébés-là, comme ils le méritent, puis comme on voudrait bien, puis des fois, c'est impossible.
Faut se pardonner un petit peu, hein, Gisèle?
Faut se pardonner. Ouais. Et c'est pas facile parce que c'est tout le long de la vie. Quand ils sont plus grands, c'est pas pire. Mais la première année, là, ouf! On aimerait ça.
Et on leur propose de lire Jumeaux, Mission Possible. Oh. C'est publié chez Chu Sainte-Justine à ses éditions qui font vraiment de belles publications. Et la vôtre, Gisèle, en est une. Salutations à Sylvain et Richard qui sont vos grands jumeaux maintenant et qui ont inspiré ce livre. Gisèle Séguin, je rappelle, vous êtes maman de ces deux garçons et auteur aux éditions du Chu Sainte-Justine. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous parler.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Julie Dostaler, bonjour.
Bonjour.
Avenir d'enfants, l'organisme dont vous êtes la directrice générale, s'est allié avec l'Institut de la statistique du Québec et l'Université du Québec à Trois-Rivières pour mener une vaste enquête sans précédent au Québec, nommée Perspective parents. Ça a été dévoilé la semaine dernière, les résultats. Et on y apprenait toutefois quand même une bonne nouvelle. 95% des parents, se sentent compétents dans leur rôle de parents d'enfants de 0 à 5 ans. Une bonne nouvelle, selon vous, Julie?
Oui, c'est une excellente nouvelle. On était très heureux de pouvoir constater ce chiffre-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les parents, quand ils se lèvent le matin, ben ils sont fiers d'être parents, puis ils se disent compétents pour le faire. Donc, c'est une base qui est très importante.
Pourquoi avoir eu ce désir de mener cette enquête, Julie?
Bien, en fait, il existe des données sur le développement des tout-petits. Donc, on a de l'information sur l'arrivée à l'école, puis voir comment que les enfants se portent, là, dans le fond, au Québec. Et on n'a pas de données sur les parents. Puis, on sait que les parents jouent un rôle déterminant dans le développement des enfants. Donc, on travaille avec plus de 3000 organismes qui sont quand même près des parents, donc qui connaissent la réalité des parents, mais on est sur des perceptions. Donc, on voulait se doter de données qui étaient fiables, qui était représentative pour l'ensemble du Québec. Puis on a aussi des échantillons qui sont représentatifs pour chaque région. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette enquête-là. Puis on a deux volets à l'enquête. Donc, oui. Un volet qui était quantitatif avec l'Institut de la statistique. Puis il y a aussi un volet qui a été fait en même temps, qui est plus qualitatif, où est-ce qu'il y a eu des focus group avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis tout ça, ça nous donne des données qui sont très riches, qui vont nous permettre aussi d'aller croiser, dans le fond, les différentes informations qu'on a reçues pour pouvoir en tirer des constats.
Et vous permettre aussi de peut-être aller un petit peu plus loin dans le soutien qui est amené à ces jeunes familles-là, parce qu'il y a quand même des éléments marquants de ce sondage. 24 % de ces parents ont dit être rarement ou jamais soutenus de par leur entourage.
Exactement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très préoccupant parce que, en fait, c'est de dire qu'il y a des parents que quand ils ont besoin d'aide, ils n'en ont pas, là, ouais. Tout simplement autour d'eux. Donc, il n'y a pas dans l'entourage, ils n'ont pas de famille qui est proche, ils n'ont pas d'amis, dans le fond, à qui peut-être confier les enfants pour pouvoir avoir un peu de répit ou avoir accès vraiment à un soutien de proximité. Donc, les ressources, les organismes, soit communautaires, les C3S, tous les organismes qui sont dans la communauté, qui sont aussi en soutien aux parents, ont un rôle important à venir jouer, en fait, dans cette dimension. Là, donc, ça nous permet aussi de voir, parce qu'en fait, on a questionné aussi pour savoir est-ce que les parents connaissent les services qui sont disponibles dans leur région et on a constaté que dans le fond, ils les connaissent. Il y a quand même 25 % des gens qui ne les connaissent pas. Donc, il y a un travail de promotion à faire pour faire mieux connaître aussi les services disponibles. Mais il y a également différents obstacles qui ont été nommés. Là, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir travailler à partir des obstacles identifiés pour tenter de faire en sorte que l'offre de soutien aux parents soit plus adéquate en fonction de leurs besoins.
Oui. 15 000 parents ont été interrogés et il y avait dans l'objectif ce souci de s'intéresser autant au papa qu'aux mamans. Oui. Pourquoi cette interpellation de votre part, Julie?
Bien, en fait, c'est la première fois qu'une enquête de la sorte s'adresse autant aux pères qu'aux mamans. Habituellement, ce que les chercheurs nous disent, c'est que dans ce genre d'enquête-là, souvent quand ils appellent, ils demandent à parler, ils nomment le sujet de l'enquête et systématiquement, c'est les mamans qui répondent aux questions. Donc, souvent, c'est les gens qui ont l'impression qu'ils passent plus de temps avec les enfants là, qui vont se soumettre à ce genre de questionnaire-là. Donc, il y a eu vraiment un souci. On sait que les papas prennent de plus en plus de place là, dans auprès des jeunes enfants. Donc, on voulait vraiment avoir le pouls aussi des papas. Donc, on a fait exprès dans l'échantillonnage pour cibler vraiment des paires. Donc, il y a dans la méthodologie qui a été faite, il y a certains appels qui étaient faits puis qui étaient vraiment adressés aux papas, donc des enfants, mm-hmm. pour pouvoir avoir un échantillon qui était important.
Julie, je comprends que ça a été des parents, bon, du Québec, d'une part, d'enfants de 0 à 5 ans de toutes les régions, autant des papas que des mamans dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a des parents d'enfants à besoins particuliers qui ont été visés aussi?
Oui, en fait, je ne crois pas que dans l'échantillon, on a de façon spécifique les enfants qui ont eu un diagnostic de besoin particulier. Par contre, on a des informations sur le niveau de scolarité des parents, mm-hmm. sur, par exemple, les régions, etc. Donc, ça nous permet quand même de voir, en fonction des enjeux socio-économiques, là, de tirer certains portraits.
Oui, parce que c'est évidemment important aussi parce que ces parents ont parfois encore plus de soucis à être soutenus, à être aidés dans leurs défis au quotidien avec des enfants à besoins particuliers.
Tout à fait. Oui. Puis ce qu'on a constaté, un des éléments qui est ressorti, c'est qu'on a constaté que les gens... Plus les gens étaient scolarisés, plus ils se mettaient de la pression par rapport à être un bon parent. Donc, on sait qu'il y a tellement de sources d'informations, de communication qui est diverse, là, soit sur Internet où on a accès à beaucoup de connaissances. Par contre, ces connaissances-là sont pas tout le temps très cohérente. Donc, probablement que ça fait en sorte aussi que ça crée un certain stress là quand les gens tentent d'aller chercher des solutions à leurs problèmes. L'anxiété augmente.
Oui, parce que l'étude révèle, et de façon très forte, très nette, que les parents ont envie, ont le besoin de se sentir compétents, de se sentir efficaces, mais souvent, la contrebalance de ce sentiment-là, de cette volonté-là, c'est le souci de performance, de perfection, et c'est rare qu'on peut être parfait là, en tant que parent. Je pense qu'il faut le rappeler aussi.
Exactement. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressortait quand même de très fort. Un élément aussi qu'on a pu constater, c'est que les familles monoparentales semblent avoir plus de soutien que, par exemple, des familles nombreuses. Donc, ça, c'est un élément aussi qui ressort. Fait qu'on se dit, bon, il y a probablement un message qui était compris, là, tu sais, à l'échelle de la population. Mm-hmm. Bien, on fait attention, dans le fond, à nos familles monoparentales, aux mamans qui habitent seules, donc qui ont plus accès dans leur réseau à du soutien, à des ressources dans leur entourage. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Julie, on guidera les gens vers avenirdenfants.org pour en savoir davantage. L'étude est publiée sur votre site Avenir d'enfants. Et les gens pourront également suivre aussi dans l'avenir ce que cette observation de société va amener comme soutien aux familles. Julie Dostaler, je le répète, vous êtes directrice générale d'Avenir d'enfants. Merci beaucoup, ça a filé trop vite.
Merci à vous.
Merci Julie, bye bye. Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console, on se retrouve nous demain. Portez-vous bien, bye bye.